C'est une fois de plus un grand honneur et aussi un grand plaisir de faire entendre dans la riche polyphonie des voix proche-orientales que propose ces journées la petite voix comparatiste grecque. Depuis le monde hellénique des cités où les articulations entre oral et écrit apparaissent au fil des avancées d'une recherche particulièrement florissante ces 30 dernières années, la bibliographie est immense, toujours plus complexe et diversifiée. C'est dire qu'il serait bien périlleux de tenter, dans le cadre de cette communication, une confrontation trop frontale entre Proche-Orient et Grèce, plus encore de dégager des traits par trop généraux qui opposeraient le monde grec des cités, qui émerge, disons, vers le 8e siècle, à un Proche-Orient de l'écrit, ainsi que pouvait le risquer, il y a encore un quart de siècle, Jean Bottero et Jean-Pierre Vernan, en un dialogue au long cours, attentif et nuancé. La force heuristique du comparatisme contrastif n'est jamais aussi grande que lorsqu'on se montre attentif à ne pas écraser la délicate variété des configurations multiples qui composent les paysages sociaux, politiques, religieux, intellectuels, des aires culturelles que le comparatisme se propose de mettre en relation et de différencier. Espace géographique, espace de savoir aussi, dont il faut toujours garder conscience qu'ils sont pour partie dessinés par le découpage et l'histoire de nos disciplines académiques. Des différences d'accent, d'autres manières d'agencer oral et écrit n'en apparaissent pas moins, signifiantes pour l'écriture de l'histoire des aires concernées et pour l'exploration anthropologique des cultures qui y ont émergé. Dès que l'on considère la place de l'oral et de l'écrit en Grèce ancienne, il faut aussi tenir compte, préalablement à toute enquête, au mouvement de balancier qui n'a cessé de ponctuer l'histoire de la recherche, en une oscillation qui fait alternativement prédominer une image de la Grèce fondamentalement terre de l'écrit et celle d'une Grèce oraliste, que la réouverture de la question de la genèse de l'épopée homérique par les Américains Milnam Pari puis Alban Lord au début du XXe siècle a considérablement favorisé. L'affirmation de Jean-Pierre Vernant, au 8e siècle, la Grèce n'est pas du tout une civilisation de l'écrit, c'est une civilisation orale, prend place dans cette histoire. À la Grèce de l'humanisme traditionnel, caractérisée par sa maîtrise des signes écrits, a répondu avec un climax dans les années 60 et 70 du XXe siècle, la redécouverte de la force de la tradition et de la puissance de la mémoire, dont l'œuvre d'Eric Havelock peut être, côté grec, tenue pour emblématique. Elle suppose un grand partage entre des savoirs qui naissent des révolutions de l'écrit et de grandes encyclopédies tribales, orales, à l'univers desquelles une Grèce dominée par l'épopée homérique aurait presque entièrement appartenu jusqu'à la fin du 5e siècle. Dans cette Grèce de la bouche et de l'oreille, l'écriture resterait un sous-produit de la culture orale et jouerait un rôle marginal, secondaire, au service d'une pensée dont la production, la mémorisation, la transmission seraient demeurées essentiellement le fait d'une oralité. J'aurais tendance à gloser un système de l'oralité massif tendant à s'opposer univoquement à un autre système, une raison graphique volontiers appréhendée sous son espèce alphabétique, est traitée comme si elle portait en elle-même la révolution des savoirs qui s'opère au tournant des 5e et 4e siècles. Les apories d'une opposition binaire entre société à tradition orale et société à écriture, au mépris aussi des régimes mixtes, ont suscité en retour un travail de repérage méthodique, une topographie des différents savoirs et pratiques mobilisant l'écriture depuis les premières apparitions de l'alphabet en Grèce jusqu'aux époques hellénistiques et romaines. L'admirable synthèse que constituent les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, dirigée par Marcel Détienne, me dispensera de m'attarder trop longuement sur les résultats. L'intensification des pratiques de l'écriture entre 650 et 450 va de pair avec leur autonomisation, mais aussi avec leur différenciation. L'acquis porte donc moins sur la réévaluation brute de la place de l'écrit comme tel à l'époque archaïque que sur une redéfinition en profondeur des enjeux méthodologiques par 1. La mise en évidence de la diversité et de l'inégalité du phénomène frappant en fonction des régions et surtout des sphères et des secteurs de l'activité sociale et intellectuelle. Ne citons que l'écriture monumentale et publique portant des textes législatifs et juridiques dont Athènes et d'autres cités font un opérateur de publicité fondamental, mais absent à Sparte. Les formes du graphène constitutif de la démonstration géométrique, l'écriture médicale des épidémies hippocratiques serrant au plus près les signes et événements très symptomatiques qui tracent la forme d'une maladie, contrainte argumentative liée au tracé de la carte géométrique. Ce faisant, je ne fais que résumer quelques-uns des chapitres des savoirs de l'écriture. 2. La mise en évidence de la pluralité et de l'irréductibilité de l'activité cognitive et des opérations intellectuelles impliquées dans ces différentes écritures. Ce qui implique de parler non plus de l'écrit, mais au pluriel des savoirs de l'écriture. Des objets nouveaux, inédits, sont offerts à la pratique sociale, objets et tombeaux parlants, nous reviendrons sur la dédicace des textes poétiques et à la pensée par des types d'activités scripturales indépendantes les unes des autres. Mais alors que Marcel d'Étienne insistait conjointement sur les raisons qui conduisaient les cités isonomiques puis démocratiques à résister à la tentation du scribe, et que le grand bénéfice des travaux des 30 dernières années a été de construire des questionnements qui, pour chaque configuration de savoir et de pratique, interroge des articulations spécifiques entre oral et écrit, les plateaux de la balance globale tendent à pencher de nouveau plutôt du côté d'une attention première à l'écrit, un écrit dont les usages et les fonctions sont appréhendés toutefois dans leur complexité. Je n'en tiens pas rendrai comme exemple que de récentes conférences de Philippe Borgeau, mon prédécesseur à Genève, que je salue à cette occasion, attentif à définir le mythe, lieu naguère privilégié de l'oralité dans le champ de la littérature. Malgré les schématisations auxquelles me contraint le cadre limité de cette introduction, je voudrais souligner qu'en matière grecque, la situation est très différente en fonction des différents champs d'études et des traditions qui les traversent. Prenons les études homériques. Deux lectures cohabitent. L'une plutôt dominante en Europe, qui met au cœur du processus de monumentalisation de l'épopée le rôle de l'écriture, qu'elle soit convoquée dans le processus de composition des poèmes ou seulement dans le processus de transcription, mémorisation, transmission, sous la forme, par exemple, de la théorie du texte oral dicté. L'autre, très influente outre-Atlantique, qui dans le sillage des travaux de Gregory Nagy montre que le contexte de performance, panhellénique en l'occurrence, est la raison même de la monumentalisation des traditions de l'Iliade et de l'Odyssée, et qu'il est dans ce contexte en rien nécessaire de mobiliser l'écrit pour expliquer le développement de la poétique sophistiquée et raffinée des poèmes homériques. Les travaux de Florence Dupont, côté français, ne cesse de souligner l'illisibilité des productions lyriques hors de leur contexte performatif et se propose d'analyser le texte transmis par les manuscrits des grands tragiques de l'Athènes du Ve siècle comme le livret d'une partition tout autant musicale et chorégraphique, restituant les conditions de leur lecture à la compréhension de leur performance sur la scène athénienne. Ce faisant, les travaux de Gregory Nagy, de ses élèves, et ceux de Florence Dupont et de l'ethnopoétique qu'elle appelle de ses vœux, contribuent à annuler le grand partage des cultures écrites et orales et proposent des approches de l'oralité, attentives à la diversité des savoirs et des pratiques mises en œuvre dans chaque contexte performatif, approches analogues en cela aux analyses fines des pratiques de l'écriture qui se sont développées ces 30 dernières années pour brosser le paysage complexe d'une gamme étendue de savoirs, mettant en jeu, en des proportions et selon des agencements différents, de l'oralité et de l'écriture. Quelle valeur convient-il d'accorder dès lors à l'opposition que dessinait le dialogue de Jean Bottero et de Jean-Pierre Vernant que nous rappelions en ouverture. Entre un Proche-Orient fondamentalement scripturaire, et ce colloque montre combien c'est plus complexe, et la naissance des cités grecques durablement marquées du sceau des savoirs ancrés dans des pratiques de l'oralité, par la prégnance aussi d'une parole politique vive dont la mise en commun et la circulation dans un espace centré et neutralisé ont été reconnus par l'helléniste, naguère professeur ici au Collège de France, comme une condition d'émergence majeure de la cité grecque. L'enjeu n'est donc pas... L'enjeu n'est donc pas d'abstraire quelques traits généraux qui caractériseraient la Grèce archaïque face à l'Orient, manière toujours faible et décevante d'engager la comparaison, mais de reconnaître des ensembles de configurations complexes dont les différences engagent d'autres agencements politico-religieux, d'autres régimes de constitution des savoirs. Nous nous proposons, en vue de cet exercice de comparaison ouvert, de considérer des dossiers qui présentent comme des points sensibles pour réévaluer la portée en ces visées fondamentales de l'affirmation devenue littéralement si problématique de Jean-Pierre Vernant. Considérons d'abord le statut de la parole poétique d'époque archaïque dans les contextes performatifs qui sont les siens. Là, gît un des nœuds de la mise en avant par Vernant d'un privilège de l'oralité en Grèce. Je cite « Ce qui est différent dans le monde grec me paraît être ceci. Au 8e siècle, là où nous saisissons cette histoire, la Grèce n'est pas du tout une civilisation de l'écrit. Nous sommes dans un monde de la parole chantée, mimée, dansée, la parole poétique. » Deuxièmement, la question de la performance, et c'est sur elle que je me concentrerai, permet de mettre entre parenthèses, au moins provisoirement, la question par trop polémique de l'alternative orale-écrit et de leur part respective dans le processus de composition et de transmission, dans les circonstances et modalités de rédaction et d'édition au profit d'une analyse des enjeux de l'énonciation orale dans son contexte, d'une investigation de son statut. Je rappellerai simplement comme exemple que la tragédie, en tout cas à l'époque d'Euripide, est clairement écrite par les auteurs tragiques, et néanmoins c'est dans le contexte de la performance du théâtre de Dionysos qu'on peut l'analyser si on la recontextualise. Donc je veux mettre entre parenthèses le débat, savoir si le texte homérique a été écrit à quel moment, pour me concentrer sur les enjeux de ce qui est le lieu par excellence de son existence au 6e, 5e siècle, la performance. Troisièmement, compte tenu de la relation médiate des sources aux réalités qu'elles représentent, ou du point de vue de l'historien documente, plutôt que de trancher des questions évanescentes, nous privilégierons l'analyse interne des représentations de la performance que proposent nos sources. Donc je fais un autre décalage en me centrant sur la façon dont la performance est représentée dans les poèmes qui sont eux-mêmes objets de performance. Premier exemple, considérons la représentation de la performance que fait Laède Démodocos chez les Phéaciens au chant 8 de l'Odyssée. Laède, attaché à la cour du roi Alcinoos, n'est certes en rien le rhapsode itinérant des fêtes panhelléniques qui nous intéressent. Mais l'image que l'épopée propose de Laède des temps héroïques pourrait bien se présenter dans un jeu d'analogies et de différences signifiantes avec le rhapsode historique qui récite Homère aux Panathénées athéniennes. Lors d'un festin, je rappelle, Ulysse demande à Démodocos de lui chanter la prise de Troie et la ruse du cheval, ses propres exploits qui lui ont valu, quand bien même à l'instar d'Achille mort, il a disparu dans un ailleurs coupé du monde des hommes, le Cléos, la gloire immortelle que le chant des Aèdes a propagée partout, jusqu'au ciel, dit le texte, et jusque chez les lointains Phéaciens. L'Aède compose dans ce contexte de la performance sur un thème dont il connaît la trame, un chant qui réponde aux attentes de son auditoire. À Ithaque, l'Aède Phémios se doit, par exemple, de chanter pour les prétendants, en l'absence d'Ulysse, la mort de ce dernier. C'est cette pratique des Aèdes, dans laquelle on a souvent été tenté de voir moins le modèle de la composition de l'Iliade que la préhistoire de l'épopée homérique, qui a été éclairée par l'ethnographie des bardes yougoslaves de Milnam Pari et Albert Lord, et pour laquelle les homéristes américains ont forgé leur théorie de la poésie orale comme recomposition du chant à chaque performance, composition fondée sur la mobilisation de thèmes, le retour, la querelle des prérogatives, l'Iliade c'est la querelle d'Achille et d'Agamemnon, la prise d'une cité et d'un système formulaire. Comme le barde yougoslave, l'Aède s'appuie sur le jeu de la lyre pour produire son récitatif. Je ne m'attarderai pas sur ces questions connues et débattues. J'insisterai sur un point décisif que la technicité des débats sur la question homérique risque toujours de faire oublier, la représentation que l'épopée se donne d'elle-même, son imaginaire, sont ceux d'une pratique et d'un savoir de l'oralité. La chose est d'autant plus significative que l'épisode phéacien que nous commentons y construit une mise en abîme de la parole de la tradition aédique. L'Iou Persis de Démodocos y est confronté à un Ulysse encore anonyme qui est à la fois l'objet même du chant, l'auteur des exploits et le témoin humain le plus autorisé. Il faut prendre toute l'intensité de cette scène où Ulysse, qui n'a pas encore dit son nom, demande à l'Aède de chanter ses propres exploits que l'Aède lui renvoie en miroir. Mais je voudrais d'abord souligner la manière dont l'Odyssée introduit le chant de Démodocos. Il fait surgir, apparaître, fainer le chant en le prenant là où les Argiens ont repris la mer. L'horizon à partir duquel l'Aède recompose une prise de Troie, c'est l'ensemble des Cléa Andron, des hauts faits des hommes, en l'occurrence ceux des héros venus combattre sous les murs de Troie, dans lesquels il découpe, à la demande d'Ulysse, un morceau dont les limites sont balisées par des repères, l'embarquement des Argiens, à partir desquels la mémoire épique recompose, soutenue par la lyre, le récit. C'est donc rien moins qu'un cycle entier de la guerre de Troie qui est présupposé comme l'horizon mémoriel de l'Aède, ce cycle dont circulaient aux époques classiques et hellénistiques comme autant d'épopées identifiables, indépendantes, des versions écrites et dont l'Iliade était donnée comme un des composants correspondant à un moment du récit complet de la guerre. Des sources plus tardives définiront même les tragédies portées sur la scène athénienne comme autant de tranches découpées au festin d'Homère. Cet Homère-là n'est pas le poète des seuls Iliade et Odyssée, ainsi que le voudra Aristote et qu'il nous est familier, mais le poète du cycle épique tout entier, thébain et troyen, tenu dès la plus ancienne attestation de son nom dans un fragment du poète Kalinos pour le poète de la Thébaïde, l'histoire d'Œdipe. Un Homère étendu qui n'a que progressivement cédé la place à l'Homère restreint qui est le nôtre. Dans la pratique de la Aide, telle que la représente l'Odyssée, le cycle est un ensemble virtuel. Il ne se réalise jamais que sous la forme de performances orales partielles, celles d'épisodes dont les limites narratives sont données comme autant de repères pour leur recomposition à destination d'un auditoire donné. Or, ce système de repères relais nous apparaîtra central dans l'organisation de la performance rhapsodique. Mais, avant de nous tourner vers l'activité du rhapsode, poursuivons l'analyse de la représentation que l'Odyssée donne de la performance aédique. L'Odyssée donne une version brève, une vingtaine d'hexamètres de l'IU Persis, en une vingtaine d'hexamètres de l'IU Persis, connue par ailleurs, sous une forme écrite perdue, comme une épopée de 2 à 3 000 vers. Version brève, version longue. L'Odyssée sélectionne, dans le champ virtuel des sous-épisodes qu'il connaît, comme pouvant composer un tableau plus ou moins large de la prise d'Ion, quelques repères qui, ordonnés ensemble, composent un épisode cohérent et complet dans le cadre de la performance du festin phéacien. Mais il réduit à une épure narrative ces quelques centaines de vers que Démodocos aurait dû chanter le temps du banquet devant son auditoire. Tous les repères requis pour composer une prise de Troie bien ordonnée, bien mise en place, réalisée kata kosmon, selon l'expression technique dont use Ulysse pour féliciter la Aide, n'en sont pas moins présents. Et ces repères, ils sont en partie choisis par Ulysse au moment où il demande à Démodocos de lui chanter une IU Persis. Il donne quelques-uns des points qui entreront dans le chant. L'analyse des deux autres chants de Démodocos, l'un d'une petite centaine de vers, les amours d'Arès et d'Aphrodite, l'autre de 5 vers, une querelle d'Ulysse et d'Achille, confirme le fait. Car ces 5 vers autour d'un conflit de prérogatives ne sont rien moins qu'une autre Iliade. Le noyau thématique à partir duquel Laète pourrait développer une épopée à la taille du festin qui est le temps de sa performance, ou le noyau d'une possible, mais qui n'a jamais vu le jour, autre épopée monumentale à la manière de l'Iliade. La performance de l'IU Persis de Démodocos répond, dans la narration odysséenne, à une demande explicite d'Ulysse, comme je l'ai dit. De l'aveu d'Ulysse, qui a déjà entendu Laète chanter sa querelle avec Agamemnon, Démodocos avait su chanter le sort des Achéens kata kosmon. Le cosmos, c'est le bel arrangement, l'ordre qui convient. Il lui demande maintenant de chanter la ruse du cheval et la prise de Troie kata moiran. Moira, c'est la part, on traduit volontiers par le destin, mais il faut le comprendre comme la part qui revient à chacun dans la distribution de toutes choses. La part en tant qu'elle résulte d'un processus de partage. Ulysse s'interroge si Démodocos, pour si bien chanter Kata Cosmos, ses exploits, les a simplement entendus par ouï-dire, un Cléos qui l'aurait instruit, ou s'il était effectivement présent. Dans ce contexte, il faut toutefois admettre avec Jesper Svenbro que le katakosmon dit plus que le bel agencement du discours. Il vise l'ordre même dans lequel la querelle s'est déroulée. Qu'ajoute alors le katamoiran ? Dans cette véritable mise en discours et en abîme de la poétique homérique que constitue la scène de la confrontation de la Aide avec l'objet de son chant, c'est Ulysse lui-même qui donne la réponse. Si Démodocos chante Kata Moiran, alors lui, Ulysse, proclamera à tous les hommes qu'un dieu favorable accompagner le chant divin de l'Aède. La muse doit avoir enseigné l'Aède et Didaxé pour qu'il chante Katakosmon. Elle doit lui donner plus encore pour qu'il chante Katamoiran. Elle doit l'avoir fait accéder à ce que les muses du prologue de la Théogonie hésiodique appellent d'un mot qui a fait couler infiniment d'encre à l'Étéia. Vérité. Elles qui savent, le proclament-elles elles-mêmes, aussi bien déclarer des vérités qu'énoncer des tromperies en tout point semblables aux réalités. Construire un chant Katakosmon, c'est donc déjà faire plus que fabriquer des plasmata, ces fictions qu'Ulysse invente à son retour à Ithaque pour dissimuler son identité. Il aurait été un marchand crétois. Chanter Katamoiran, c'est chanter selon la part que chacun a reçue dans la distribution de toutes choses. Une explicitation du sens de ce Katamoiran se retrouve dans un autre fragment de poétique inséré dans un hymne archaïque, une poétique du théogonique que constitue le chant par lequel Hermès énonce sa place dans le Panthéon, dans l'hymne homérique qui lui est consacré. C'est sa voix qui est en jeu, qui s'élève, guidée par Mnémosyné, mémoire, mère des muses, garante des savoirs. Le bon agencement, le cosmos de cette théogonie répond à une aletheia de type hésiodique en ce qu'il énonce la part que chacun a reçue, os, laché et castos. Le savoir des muses est donc pluriel et ambivalent, mais il implique en l'une de ses formes de faire passer l'Aède de l'autre côté du miroir. L'Aède échappe alors au sort commun des hommes, qui n'est que d'entendre un bruit, une rumeur protéiforme qui circule de bouche à oreille. Ainsi, met en exergue la différence du savoir de l'Aède et de la condition ordinaire les hommes, l'invocation aux muses qui ouvre au chant 2 de l'Iliade ce long exercice de mémoire qu'est le catalogue des vaisseaux. Catalogue qui, vous le savez, présente tous les contingents achéens venus à Troie et qui a toujours été considéré comme un monument des possibilités de la mémoire orale. Nous autres, hommes, ne savons rien, nous n'entendons qu'un bruit, Cléos. Cléos qui est le mot même de la renommée que l'Aède procure à celui qu'il chante. Vous, muses, vous êtes des déesses, vous êtes partout présentes, vous savez tout. Elles connaissent l'autre face des choses, l'envers du miroir, destin des hommes et pensée des dieux, ce qui est, ce qui sera et ce qui fut, selon la formule hésiodique. Elles sont présentes partout, mais autrement que le simple témoin qui ne voit dans le songe d'Agamemnon au chant 2 de l'Iliade, la ruse, qui ne voit pas la ruse de Zeus dans le songe que ce dernier a envoyé à Agamemnon au chant 2 de l'Iliade. Les noms, les généalogies, les positions exactes se brouillent sans la garantie de puissance supérieure aux humains, les muses. Le chant Katamoiran que Démodocos déploiera devant Ulysse, qui en est l'objet, dira cette autre face du miroir. Sans le savoir des muses, Ulysse lui-même, auteur des exploits, n'y accède pas. Dans la situation de performance qui est celle du rhapsode récitant Homère dans les fêtes panhelléniques à Délos ou à Athènes au VIe-Ve siècle, La vérité que garantit la muse et que le poète détenteur des traditions poétiques revendique comme son savoir est corrégativement l'objet d'une appréciation et d'un jugement de l'auditoire. C'est l'auditoire qui accordera son approbation ou récusera les versions proposées. Hérodote témoigne par exemple qu'au VIe siècle, le tyran de Sicyone, Clisthène, a fait bannir de sa cité les poèmes homériques jugés trop favorables à Argos. Réalité factuelle de l'autorité de fait de l'audience qui contrôle le rhapsode, mais qu'en des termes du savoir que revendiquent ces derniers, il convient de retraduire face à la muse qui sait qui sont à la fois des puissances de vérité et de tromperie, les hommes doivent déjouer les puissances d'illusion que recèlent les beaux chants. De ce point de vue, si la connaissance katamoïrane est le privilège des muses et des dieux, Ulysse est bien à sa manière face à Démodocos, le garant que le discours de Démodocos n'est pas un simple plasma. Et là, je n'ai pas le temps d'y venir aujourd'hui, je crois que c'est toute l'opposition qu'on a durcie entre l'enquête hérodotéenne et le savoir traditionnel de la haie, du rhapsode qu'il faudrait réévaluer. L'Odyssée reproduit donc bien des savoirs de l'oralité, savoir d'un système de mémoire dont témoigne le catalogue des vaisseaux, mais surtout un système dans lequel la performance est au centre, où l'oralité est liée précisément à ce contexte. Système de savoir qui met en jeu des puissances divines qui en sont partie prenante. Et là, il ne faut absolument pas séparer l'analyse des savoirs techniques de la haie et du rhapsode de la configuration polythéiste des puissances qui en sont partie prenante et contribuent à la dessiner. Et cela m'amène à une remarque importante, je crois que je vais devoir abréger parce que je déborde. En tout cas, les dieux grecs n'aiment pas écrire. On les voit très rarement dans des activités scripturaires. Et sans doute là, y a-t-il quelque chose d'important pour comprendre comment dans les cités archaïques et classiques, se développe un imaginaire qui, compte tenu de l'autorité culturelle panhellénique qui est celle d'Homère, qui devient fondement de la paideia du système éducatif, est comme une sorte d'horizon constant de l'homme de la cité. Et j'aurais tendance à dire que nous avons là, sans doute, l'intuition la plus profonde de Vernon par-delà l'inexactitude littérale de l'énoncé que je vous lisais tout à l'heure. Un Homère dont un rhéteur pourra dire au IIe siècle après « On nous a fait sucer le lait de ses vers ». Qu'Alexandre le Grand emporte avec lui sous son oreiller pour inspirer ses nuits, qu'on combat aussi, car Platon chasse de la cité et qu'on réinterprète à coups d'allégorie pour le mettre en accord avec l'état des nouveaux savoirs, de savoirs qui, eux, ont impliqué le recours à l'écriture. Un Homère qui est alors pris, un ensemble de savoirs dont Homère est l'emblème, qui entre alors en conflit avec d'autres savoirs par rapport auxquels il doit se repositionner. Le deuxième exemple, mais en fait je vais devoir aller très vite, je voulais revenir sur la question du rhapsode. Alors, peut-être juste deux remarques très très importantes. Ce que nous avons vu caractéristique de la représentation de Démodocos, prendre un relais dans un ensemble virtuel. C'est par un tel système de relais que fonctionnent les relais entre rhapsodes à l'intérieur de la performance homérique, de la performance rhapsodique. Et si, à la fin du VIe siècle, quelqu'un, un Pisistratide ou un autre, oblige les rhapsodes à chanter en ordre par relais, cela veut dire qu'indépendamment du fait qu'il y ait ou non des textes écrits d'Homère, la performance peut recomposer l'ordre, peut proposer d'autres agencements possibles de l'ensemble, et qu'un ordre doit être imposé. La législation de la performance joue en parallèle avec ce que sera le processus d'édition sous l'autorité des cités de versions propres à chaque cité. Des cités grecques de Marseille à la mer Noire proposent leurs propres éditions. Nous n'opposerons pas, je vais à la conclusion par la même, l'écrit et l'oral, mais nous verrons ici deux processus concomitants, l'un qui se joue au plan de la régulation de la performance, l'autre au plan de la rédaction-édiction. Dernier exemple que je prendrai très vite, l'usage de l'écriture. En Grèce, il n'est pas si sûr que la transcription d'Homère soit toujours liée à un processus d'édition. Dans un très grand nombre de cas, des témoignages montrent que un hymne homérique, des poèmes d'Alcée, Hésiode, les travaux et les jours, ont été déposés dans des sanctuaires à titre d'anathéma, d'offrande. Et de ce point de vue-là, il s'acquiert un statut rituel complémentaire de la performance. La performance est un surcroît d'honneur offert aux dieux à l'occasion d'une de ces fêtes, et en plus, sur le mode du dépôt de l'offrande, le texte écrit pourra en rester une trace durable. Claude Calame a même suggéré qu'il y aurait là une des places possibles du passage à l'écrit. Je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais je crois que ce que j'ai essayé de faire avec vous, c'est au fond ce qui a été fait du côté des savoirs de l'écriture. Réintroduire cette oralité dans la pluralité des savoirs et des pratiques, des configurations précises qui entrent en elle, pour ne considérer non pas l'écrit et l'oral en une opposition frontale, mais un ensemble de savoirs qui les mettent de manière différente en jeu. Et ces configurations, diverses en Grèce et diverses au Proche-Orient, elles pourront dès lors être comparées finement en soulignant des différences d'accent qui sans doute en Grèce se jouent aussi, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir aujourd'hui, du côté de la forme de la cité. Je vous remercie.